Le sujet que nous allons aborder ce matin est celui-ci, la fidélité de l'épouse. La fidélité de l'épouse. Lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9 et au verset 15. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Nous prenons que simplement cette partie du passage de Matthieu 9, parce que nous voyons que à trois reprises, le Seigneur Jésus, c'est lui qui est désigné ainsi comme l'époux par Jean-Baptiste. Non, pardon, par Jésus. Jésus leur répondit, les amis de l'époux, c'est Jésus lui-même, donc, qui se désigne comme l'époux. Nous allons maintenant dans Jean 3, verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean, Jean-Baptiste, une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux, aussi cette joie qui est la mienne, est parfaite. Il faut que je croisse et que je diminue. » Ici, c'est donc bien Jean-Baptiste, en effet, qui désigne le Christ sous cette appellation de l'époux. Le Seigneur Jésus est donc appelé l'époux au titre qu'il a déjà, c'est-à-dire, surtout, Dieu fort, admirable, conseiller, Père d'éternité, Prince de la paix, Souverain sacrificateur, Chef de l'Église, Dieu a ajouté celui d'époux. Et ce titre est évocateur d'une union, bien sûr, évocateur d'une union indestructible, union d'amour et de dévouement. Mais qui est l'épouse? L'épouse, c'est le peuple de Dieu, l'Église. L'Église, le peuple de Dieu, l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ. Au commencement, nous dit le livre de la Genèse, nous pouvons le prendre au chapitre 2 de la Genèse, prenons cela, chapitre 2, verset 18, nous lisons, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » La traduction d'Arbi porte une aide qui lui corresponde. Dieu ne se satisfait pas que l'homme soit seul. ce n'est pas dans la vue de Dieu, il vient de créer l'homme, mais il ne veut pas qu'il reste seul. Et il crée également la femme qu'il tire de l'homme lui-même. Il ne faut pas que l'homme soit seul, la vie de l'homme ne serait pas conforme au mobile de Dieu. Si l'homme restait seul, sa vie ne serait pas conforme au mobile de Dieu. Le mobile de Dieu, c'est l'amour. C'est le grand mobile de toutes ses œuvres. Il n'y a pas deux mobiles qui surpassent celui-là. C'est le mobile clé, le mobile absolument universel de toutes les œuvres de Dieu. Il faut que la vie de l'homme qui vient d'être créé soit donc en conformité à ce mobile, et la vie de l'homme ne serait pas dans cette conformité s'il restait seul. Donc, il faut que l'homme ait à côté de lui une aide qui lui corresponde, si bien que là, nous voyons intervenir une loi d'union dans l'œuvre de Dieu, l'œuvre qui commence concernant l'humanité. Une loi d'union apparaît dans l'œuvre de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11 et verset 7, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 7, nous pouvons lire ceci, « L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. » La femme est la gloire de l'homme. Cette gloire se voit, une gloire doit se voir, cette gloire se voit dans le fait, pour l'homme, d'être aimé et de pouvoir aimer. Aimer un être qui soit le vis-à-vis, son vis-à-vis, ou un autre lui-même. L'homme créé à l'image de Dieu doit être comme Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il doit être comme Dieu. Il faut que le Créateur se voie dans sa créature. En somme, Dieu s'est donné un semblable. Alors, si nous portons nos regards sur Dieu, nous apprenons que Dieu, Père et Fils, ne sont ensemble de toute éternité. Dieu, en somme, dans sa la constitution de son essence n'est pas seul, il est Père, Fils et Saint-Esprit, le Saint-Esprit étant l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils. Jésus dit concernant l'Église, dans la prière sacerdotale de Jean 17, qu'il soit un, les disciples, ses disciples, qu'il soit un, comme nous sommes un, comme nous sommes un, moi, le Christ, en eux, et toi, Père, en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Nous voyons là ce grand mobile d'union, d'amour. C'est très important cela, très important. Nous nous arrêtons à bien des considérations qui ont trait, celles qui nous intéressent surtout, aux choses, aux comportements, aux choses de la vie courante maintenant. Mais il faut s'élever vers les grands principes. En voilà un, et il est majeur celui-là. Qu'il soit un comme nous sommes un, Père, Fils sont un. Alors, eux aussi, il faut qu'ils soient un, et non seulement ils vont être un, constituer une unité Mais cette unité ne va pas être dissociée de l'unité qui est en Dieu, c'est-à-dire l'union du Père et du Fils. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Bon, ça pourrait être à côté, parallèle, mais non. Moi en eux et toi en moi. Si bien que l'union des disciples est une union non seulement entre eux, mais une union avec le Père et avec le Fils. Si bien que, en somme, il y a une pénétration de cette union des disciples dans l'union qui est l'essence de Dieu. Adam constate, après que Dieu fut intervenu, il constate que sa compagne, la compagne que Dieu lui donne, est os de ses os et chair de sa chair. Et pour reprendre les termes de l'hébreu, la femme est nommée Isha, elle est prise de Ish. Ish, c'est l'homme, Isha, c'est la femme. Nous avons dans l'Ancien Testament un petit livre qui s'intitule « Le Cantique des Cantiques » et qui, au dire de certains pieux israélites d'autrefois, disons plutôt, je ne sais pas quel est maintenant l'avis des pieux israélites d'aujourd'hui, mais il en fut autrefois pour dire que le cantique des cantiques était le joyau des Écritures, autrement dit le joyau de l'Ancien Testament, puisqu'il n'avait que cela, non, le joyau. Ce livre est un chant d'amour, que l'on a méconnu, que même nos commentateurs dans les versions modernes défigurent par leurs propos. Ils défigurent. Il y en a même un qui dit « c'est un chant érotique ». Alors celui-là, je pense qu'il ferait mieux, ou ceux-là, ceux qui ont écrit ça, d'aller s'occuper d'une toute autre matière que de la Bible. Un chant d'amour où le salut s'offre. Le salut s'offre. C'est manifestement où on n'y comprend rien, ou alors on discerne que c'est vraiment un livre dans lequel le salut s'offre. Il s'offre sous une forme allégorique, sous la forme de fiançailles entre deux êtres, la Sulamite. Sulamite, c'est le féminin de Salomon. Les théologiens si savants n'arrivent pas à admettre cela. Ils vont chercher la Sulamite comme étant peut-être une habitante de Sumène, Sunem. Tout cela est sans raison. Salomon, un féminin, c'est Sulamite. La Sulamite, c'est donc une personne qui porte un nom, le féminin, de Salomon. Comme Salomon veut dire le pacifique, elle-même est la pacifique ou la pacifiée. C'est Salomon qui a pacifié la Sulamite. Vous voyez tout de suite, n'est-ce pas, le parallèle qui se présente avec Christ et l'Église. Nous voyons dans cette allégorie l'âme rachetée sous l'image de la Sulamite. Nous voyons l'âme rachetée et lavée qui ne sait pas encore. Elle est maladroite. Elle ne sait pas encore comment manifester l'amour qu'elle ressent pour son bien-aimé. Il est appelé surtout son bien-aimé. À l'origine, bien sûr, la Sulamite figurait le peuple d'Israël pour les Israélites, et maintenant, très nettement, elle figure l'Église. Elle peut figurer une âme isolément, ou L'Église, dans sa totalité, l'Église qui est un corps, elle figure soit l'un soit l'autre, on peut voir ces deux figures comme on le désire. Et maintenant, donc, nous allons prendre un passage dans les Éphésiens qui va nous mettre en face alors d'une présentation tout à fait directe de l'époux et de l'épouse. Éphésiens chapitre 5. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. L'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Ici, l'apôtre veut souligner que l'Église, c'est une personne. Nous qui sommes plusieurs, dira-t-il, nous sommes plusieurs, c'est-à-dire une multitude, nous sommes un seul corps, nous formons un seul corps. Alors c'est pourquoi ici l'apôtre dit « parce que ». Donc, Christ prend soin de l'Église parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voilà un passage qui est très intéressant, puisque là nous est présentée l'union dans le mariage, l'union de l'homme et de la femme. Et puis, constamment, en parallèle, l'union de Christ et de l'Église à regarder comme une personne. Nous comprenons que l'union de l'homme et de la femme dans le mariage est rapprochée, exactement rapprochée de l'union de Christ et de l'Église, et que l'union dans le mariage reflète cette autre grande union de Christ et de l'Église. Jésus-Christ sanctifie l'Église, avons-nous lu, il lui donne sa force, il lui donne aussi le fruit de sa victoire sur le péché et sur la mort, il la nourrit, Hélène, il la nourrit, et vous voyez combien nous avons besoin de méditer, de sonder les Écritures, et cela sous l'éclairage du Saint-Esprit. Mais l'apôtre nous dit, en terminant, ce mystère est grand. Ce mystère est grand, je dis cela. Il formule ici une appréciation, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ces deux versets, 31 et 32, dans 31, il y avait « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, le mystère d'une seule chair, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à l'Église. » Si nous lisions cela dans la Tobe, la traduction œcuménique, nous aurions « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Moi, je déclare qu'il concerne le Christ et l'Église. Moi, c'est Paul, n'est-ce pas ? Moi, Paul, je déclare qu'il concerne le Christ et l'Église. Donc, c'était l'interprétation de Paul, mais cette interprétation a pris place dans l'Écriture, elle est donc couverte par l'inspiration plénière des Écritures. Dans le mariage, l'homme et la femme sont nés de familles différentes, le plus souvent étrangères l'une à l'autre. Or, ces deux-là qui, pendant peut-être toutes les années de leur adolescence et même du début de leur maturité, ne se connaissaient pas, voici qu'ils se rencontrent entre eux un sentiment prend naissance, ils s'épousent, ils se marient et ils deviennent une seule chair, ils ne l'étaient pas, ils étaient étrangers, ils se rencontrent, ils deviennent une seule chair. Il y a donc là, selon la volonté de Dieu, apparition d'une unité vivante. Une unité vivante entre deux personnes qui étaient étrangères et qui se rencontrent. Il y a création d'une unité vivante. Comme au commencement, Dieu a créé la femme et il l'a remise à l'homme. Il y a donc eu, au commencement, création d'une unité vivante entre Adam et Ève. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu 19, a repris cela. Il a même surenchéri en disant « Ils sont une seule chair, ils ne sont plus deux, ils sont un seul », dit le Seigneur Jésus. Vous voyez, il a donc appuyé encore sur ce principe « Ils sont une seule chair ». L'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Paul nous le rappelle ici dans le verset 31. C'est important, il va quitter son père et sa mère pour un lien plus fort que celui du sang. Et ce lien est forgé par l'amour, cet amour qui a, vous savez, son mystère. Bon, mystère, bien sûr, dans la société, surtout la société d'aujourd'hui, il prend peut-être différentes formes, il ne revêt pas toujours le même sens, peut-être toujours la même réalité. Bon, mais il n'empêche que il a son mystère, cet amour. Il s'attachera à sa femme, c'est donc un lien nouveau qui se forme, et un lien nouveau plus fort que celui du sang. L'homme quittera son père et sa mère. Naturellement, la même chose pour la femme, elle quitte elle aussi son père et sa mère. Ils ont quitté l'un et l'autre leur famille, où ils ont grandi, et puis ils s'épousent parce qu'ils s'aiment, et voici un lien nouveau, plus fort que celui du sang. Et c'est ce lien-là, prenons-le dans toute la force qu'il peut avoir et qu'il a encore, je pense, lors de certaines épousailles. Eh bien, c'est ce lien-là le plus fort que Dieu prend pour modèle de son union avec le peuple élu, de l'union de Christ et de l'Église. C'est ce lien-là qu'il veut. Il ne prend pas le lien du sang, il prend ce lien-là, ce lien nouveau, comme modèle de l'union de Christ et de l'Église. Une union qui est telle qu'elle fait de deux un seul. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Évidemment, il y a quelque chose qui est peut-être de nature à nous surprendre, parce que nous disons, bon, l'époux, ça je comprends, c'est une personne, la personne de Christ. Bon, pour l'instant, nous ne connaissons que Christ comme l'Esprit. Bien. Mais l'épouse, alors là, c'est beaucoup plus compliqué à réaliser, c'est un peu plus difficile, nettement plus difficile, parce que c'est une multitude de gens. Bon, je sais bien, ils forment un seul corps, mais c'est quand même une multitude de gens. Alors, l'époux, d'un côté, c'est une personne, et de l'autre côté, c'est une multitude de personnes. Mais l'Église est vue dans son unité, je rappelais cela à l'instant, nous qui sommes une multitude, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres des uns des autres. Donc, Dieu veut voir l'Église comme un corps et dans une unité parfaite. Alors, chaque fois que nous détruisons d'une façon ou de l'autre cette unité, eh bien, nous sommes bien en faute. Vous le voyez, n'est-ce pas? Combien c'est grave de détruire l'unité dans l'Église. Alors donc, l'époux est une personne, l'épouse est une multitude, mais cette multitude constitue une unité. On peut dire que l'Église est vue par Dieu comme une personne. Alors, cette union de Christ et de l'Église qui est mise en parallèle avec l'union de l'homme et de la femme dans le mariage, est-ce que nous devons comprendre cela comme une parabole, comme une allégorie, comme une métaphore, ou voir là un symbolisme? Non, rien de tout cela. Rien de tout cela. C'est en dehors de tout cela, ici. Il y a une sorte de continuité. C'est ça qu'il faut voir, ça qu'il faut comprendre. Il y a une sorte de continuité. Plaçons-nous plus haut, au-dessus de nos propres raisonnements, de nos propres vues. Essayons de voir avec la vue de Dieu. Il y a une continuité. Le mariage, d'un côté, au début, bon ça, vous voyez, c'est tout au commencement qu'on le trouve, c'est un ordre social, déjà, qui est indispensable, et puis là, comme nous venons de le souligner, apparaît un lien fort, un lien nouveau, c'est pas le lien du sang, c'est un lien nouveau. Alors, ce mariage a lieu, et puis voici que, en continuant l'idée, en suivant l'idée, en suivant même la réalité de l'union dans le mariage, nous parvenons à une union tout à fait parallèle, celle de l'Église et de Christ. L'union de Christ et de l'Église fait suite à l'union dans le mariage. Ça fait suite. Vous voyez, Dieu, lui, ne s'embarrasse pas de toutes sortes de vues trop proches, si vous voulez, de la situation de la terre. Il voit, lui, son dessein. Son mobile, c'est l'amour, ne l'oublions pas. Alors, l'union de l'Église et de Christ fait suite à l'union de l'homme et de la femme dans le mariage. En effet, l'union de Christ et de l'Église procède d'une même intention, d'une même intention. Il y a la même intention dans les deux unions. Ils ne sont plus deux, une seule chair. Pour le mariage, pour Christ et l'Église, ils ne sont plus deux, une seule chair. La même intention. Et puis, c'est un lien nouveau. L'Église, elle est composée de gens qui ne connaissaient pas Jésus-Christ et qui, en raison de leur approche, de leur conversion, de leur régénération, maintenant le connaissent. Et ils sont unis, il faut qu'ils aiment, ils sont appelés à aimer, à être saint, mais à aimer le Seigneur Jésus. Celui qui m'aime, a dit le Seigneur Jésus, il veut être aimé. Celui qui m'aime, aime le Père. Celui qui m'honore, honore le Père. Il veut être aimé. Alors, c'est une même intention qui préside aux deux unions, l'union dans le mariage et l'union de Christ et de l'Église. Si bien que l'union de l'homme et de la femme dans le mariage annonce et reflète l'union Christ et l'Église, et c'est cela qu'a voulu le Seigneur. Il a voulu que le lien dans le mariage, et lui il l'a regardé pur ce lien, il l'a regardé fort, il veut que ce même lien soit là pour unir Christ et l'Église. Et n'oublions pas que Paul, dans le passage d'Éphésiens 5, nous a montré la soumission de l'épouse, de même que l'Église est soumise à Christ. Ce qui veut dire ceci, c'est que l'Église, elle observe, elle l'a reçue, elle reçoit et elle observe la parole du Christ. Elle est soumise. C'est soumis. Soumis, c'est un mot qui recouvre une chose très importante. Voilà. Et alors, nous allons maintenant lire dans 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens chapitre 11 et verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voyez, Paul, c'est normal, nous retrouvons en lui la sensibilité des prophètes d'autrefois. Non seulement ces prophètes avaient la parole à annoncer, à dire, mais il sentait ce qui était dans la parole. Il sentait cette parole agir déjà en eux-mêmes, les transporter eux-mêmes, les troubler eux-mêmes. Et là, ici, nous voyons ce même phénomène. Paul dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. J'éprouve, moi, cette même jalousie. Dans un livre de l'Ancien Testament que vous connaissez bien, le livre d'Osée, là, Dieu ira même loin, puisqu'il dira à ce prophète Osée, tu vas épouser une femme prostituée. Tu vas épouser. Et c'est cela, et il a épousé cette femme prostituée. Tu vas épouser cette femme prostituée et tu vas voir quelle est la situation d'un mari, du mari d'une femme prostituée. Tu vas voir, tu vas sentir, tu vas éprouver toi-même ce que j'éprouve, moi, Dieu, devant un peuple que je me suis donné, que je me suis formé et qui m'est infidèle. Tu vas voir. Vous voyez comme cela va loin, n'est-ce pas? Tout cela a été bien présent et toujours bien présent dans la pensée de Dieu. Alors ici, l'apôtre Paul nous dit, je vous ai fiancé un seul époux. Mon travail a abouti à cela, a eu cela pour but de vous fiancer. Vous n'êtes pas encore unis dans le mariage, mais vous êtes fiancés pour vous présenter. Il faut que je vous présente à Christ comme une vierge pure. Et dans les Colossiens, il nous montrera qu'il entend présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Dans l'Ancien Testament, nous avions déjà cela, parce que l'Ancien Testament n'est jamais étranger aux grandes pensées que nous trouvons dans le Nouveau. Nous avons par exemple ceci dans Ésaïe 62 verset 3. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. » Quand il s'agit de ta terre, il s'agit de la société qui est sur cette terre. « Et ta terre aura un époux comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Et puis, nous avons aussi Jérémie chapitre 2 et verset 1. Jérémie 2. Crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu, tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Vous voyez là, nous voyons bien qu'il y a encore la même idée. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, tu me suivais au désert. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Une vierge pure. Comment la fiancée du Seigneur, lui, le saint, le juste, le véritable, le témoin fidèle et véritable, pourrait-elle être présentée autrement comme une vierge pure, que comme une vierge pure, autrement? On ne peut pas concevoir, La fiancée de Christ, n'est-ce pas, ne peut pas être une femme impure. C'est pas possible. Donc, c'est tellement évident, ça. Et l'Écriture insiste sur le caractère de pureté que devra posséder l'épouse, c'est-à-dire l'Église, lors de sa présentation à Christ. C'est toujours à ce moment-là, pour ce moment-là, que différents textes parlent de pureté. Voici par exemple celui-ci. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Là, ce que dit Paul dans les Philippiens, bon, il le dit, afin que vous soyez purs et irréprochables. Puis, dans les Colossiens, il vous a maintenant réconciliés pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Dans les Éphésiens 5, nous l'avons vu, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dans la deuxième épître de Pierre, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Dans 1 Thessaloniciens 3, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. L'Apocalypse, lui, dans son chapitre 19, annonce que l'épouse de l'agneau, nous sommes au moment des noces de l'agneau, l'épouse de l'agneau sera revêtue d'un fin lin, éclatant et pur. Et ce passage précise, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, c'est-à-dire les œuvres justes, les œuvres faites dans le champ de la parfaite justice, c'est-à-dire que c'est la parfaite fidélité. La parfaite fidélité. Bon, pour l'instant, je n'insiste pas plus, mais à vous de méditer cela. Une vierge pure, il ne peut pas en être autrement quant à la fiancée de l'époux. Dans l'Écriture, le prophète Ésaïe, par exemple, au chapitre 55, il les dit ceci, « Je traiterai avec vous une alliance éternelle, et votre âme vivra. » Une alliance, je traiterai avec vous. Vous, peuple d'Israël, savons que la nouvelle alliance dans laquelle se trouve maintenant l'Église a été d'abord proposée, apportée au peuple d'Israël, puis elle s'est étendue aux païens que nous étions. Je traiterai avec vous une alliance éternelle et votre âme vivra. Ésaïe 55, 3. Jérémie et Ézéchiel, pour leur part, proclament aussi, confirment, « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. » Une alliance qui sera éternelle et qui les conduira dans l'éternité. Et puis, nous connaissons cette parole du Seigneur Jésus au moment de la scène, de l'institution de la scène. « Ceci est le sang de l'Alliance répandu pour plusieurs. » Jésus est le médiateur de cette nouvelle alliance. C'est lui, par lui que se traite cette nouvelle alliance. Une alliance, cela se traite. Il est le médiateur, il est aussi l'époux. Je ne vais pas vous relire les passages où cela est dit dans Hébreux 8, 6 par exemple, 9, 15, 12, 24, Jésus est désigné comme le médiateur. L'alliance, qu'est-ce que c'est? L'alliance a beaucoup de force dans le dessein de Dieu. Elle tient une place prépondérante. L'alliance, c'est un traité. Un traité. C'est un engagement réciproque. Il n'y a pas engagement d'un seul côté, mais de deux côtés. Un engagement réciproque, c'est un contrat d'union. Dieu s'unit au peuple qu'il s'est donné. Actuellement, l'Église dans la nouvelle alliance. C'est un contrat d'union, c'est donc un contrat de mariage. C'est un contrat de mariage. Et cette alliance concerne les grâces présentes, les grâces à venir, elle concerne l'héritage promis, mais aussi elle a des clauses, tout traité a des clauses. Elle a comme clause la pleine observation des paroles de l'alliance, de ce que l'alliance renferme, contient, et toutes les instructions de Jésus-Christ entre dans les clauses de l'alliance nouvelle. Par conséquent, être fidèle à l'alliance, c'est garder la parole du Seigneur ou garder les commandements, garder mes commandements, a dit le Seigneur Jésus. Donc, il y a un contrat de mariage. Si même j'avais le temps d'aller plus loin, je vous montrerai que ce contrat de mariage a été non seulement scellé par le sang de Jésus, c'est beaucoup cela, mais il a été traité devant, disons, un personnage qui tenait une place comparable à celle d'un notaire. Officier ministériel qui représente la puissance publique, d'un notaire, donc Dieu et le peuple d'Israël au début, mais l'alliance, j'ai dit, la nouvelle alliance a été traitée et proposée au peuple d'Israël. Eh bien, ce contrat a été scellé devant notaire. C'est extraordinaire. Ça se trouve dans Hébreux 7, mais je n'ai pas le temps de détailler. Vous voyez comme, par conséquent, tout est en bonne place pour nous présenter vraiment cette mise en place et ce déroulement du dessein de Dieu dans le cadre d'une union, d'une grande union, l'union de Christ et de l'Église. Mais malheureusement, les hommes sont des hommes, ils sont issus de la chute et il y a des transgressions. Et la Bible nous en parle. L'alliance ancienne a été rompue. Elle a été rompue, elle a été transgressée, l'ancienne alliance, elle a été violée. Et ces transgressions sont appelées, dans les Écritures, des adultères et des prostitutions. Et nous en avons surtout la caractérisation au sujet de Samarie et de Jérusalem. Samarie et Jérusalem, les deux capitales. Jérusalem, la capitale de Juda et Benjamin, et puis Samarie, la capitale des 10 autres, fractions du peuple d'Israël. Et Jérusalem et Samarie sont regardées comme deux sœurs prostituées dans un passage qui est bien connu, le chapitre 23 d'Ézéchiel. Le chapitre 23 d'Ézéchiel. C'est peut-être un petit peu choquant pour certains, peut-être à lire, mais nous ne l'allons pas le lire en entier, mais nous allons voir ce dont il nous informe. Au verset 4, l'aîné, non, je devrais lire quand même au début, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. C'est vrai, n'est-ce pas? Les 10 tribus, et les deux tribus, là, de Benjamin et de Juda, étaient issues d'une seule et même mère. Avant, elles formaient un ensemble, le peuple d'Israël. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leur sein virginal a été touché. L'aîné s'appelait Ohola et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi et elles ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola me fut infidèle, elle s'enflamma pour ses amants, les Assyriens, ses voisins. Bon, ne lisons pas la suite. Ohola, donc, Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola signifie sa tante en elle. Tante, T-E-N-T-E, sa tante à elle. Et puis, Oholiba signifie ma tante en elle. Ce qui correspond à ceci, Samarie s'était séparée du sanctuaire de Jérusalem et avait élevé son propre sanctuaire à Bethel, où Dieu était alors adoré sous l'image égyptienne du veau d'or. C'était bien toujours l'Éternel, mais il était adoré sous l'image égyptienne du veau d'or. Attention que nous n'adorions pas l'Éternel sous une image empruntée à l'Égypte, à Babylone, à qui on voudra. Par contre, donc, Ohola, ma tante à elle, elle avait à Bethel son propre sanctuaire. Voilà ce qui justifie ce nom. Ohliba, ma tante, la tante de Dieu, était en elle. C'est le véritable sanctuaire, celui que Dieu avait voulu, fut institué à Jérusalem. Samarie s'était séparée du sanctuaire de Jérusalem. Judas, lui, continuait d'adorer à Jérusalem. « Oh là, me fut infidèle !» Il s'enflamma pour ses amants, les Assyriens, ses voisins. Elle s'est prostituée à eux. Elle fit alliance avec eux. Elle s'est souillée avec toutes leurs idoles. Enfin, il y a un luxe de détails là-dedans, n'est-ce pas? Nous n'allons pas l'examiner, nous voyons simplement le fait, n'est-ce pas? Le fait est grave. Sa sœur, Oholibama, donc Jérusalem, vit cela. Jérusalem a vu, voyez-vous, très mauvais de voir, très mauvais d'avoir un mauvais exemple sous les yeux. Vous voyez ce que ça donne, un mauvais exemple. Peut-être que si Jérusalem n'avait pas vu l'exemple de Samarie, les choses auraient été différentes. Sa sœur Oholibama vit cela. Elle fut plus déréglée qu'elle dans sa passion. Ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur. Je vis qu'elle s'était souillée, que l'une et l'autre avaient suivi la même voie. Elle alla même plus loin dans ses prostitutions, et concernant Jérusalem, ce n'était pas avec les Assyriens, c'était avec les Chaldéens. Et au verset 18, le prophète dit de la part de Dieu, « Et mon cœur s'est détaché d'elle, comme mon cœur s'était détaché de sa sœur. Elle a multiplié ses prostitutions. » Mes amis, quand nous lisons ça, cette histoire, c'est du passé, ça ne nous touche pas de trop près, mais, ça constitue un avertissement qu'il ne faut surtout pas abandonner. Ces femmes, donc, ces villes, ces peuples, sont qualifiées de femmes adultères. Ainsi, cette prophétie se sert de termes crus, hein, qui trouve que c'est un peu trop cru. Eh bien, c'est des termes crus, pourquoi? Parce que là, le prophète, inspiré, n'a pas craint de coucher dans sa prophétie des termes propres à exciter le dégoût. Le dégoût. Si on a vraiment la vision de ce que Dieu est, de la sainteté de Dieu, et qu'on dit, voilà, ce sont des peuples, des villes, des peuples qui sont alliés avec Dieu, qui ont eu le grand privilège, le bonheur d'être alliés avec Dieu, ils se prostituent comme cela. Ils vont adorer des faux dieux, et ils vont participer même à la prostitution sacrée, prostitution dans le sens littéral. Alors, le prophète s'est servi de termes crus pour stigmatiser l'abomination et l'horreur de l'infidélité à Dieu. Notre époque licencieuse et permissive ne trouverait rien à redire, soyez tranquilles, à la conduite d'Ola et d'Oholiba. Notre époque l'approuverait. On dirait, mais c'est bien, très bien ce qu'ils ont fait là. Ils ont pris leur liberté, ils n'ont pas voulu rester dans l'aliénation, et ils se sont vraiment, n'est-ce pas, ils ont pris en main leur responsabilité, leur liberté, bravo. Voilà ce que dirait aujourd'hui notre mentalité. Aussi, avec cette mentalité-là, notre monde a-t-il conduit le christianisme dans des infidélités du même ordre, et même peut-être plus graves. Et c'est l'islam. Je ne sais pas si vous voyez combien notre Occident ménage l'islam et combien l'islam lui paraît être une bonne chose, une chose intéressante, une chose à connaître, une chose même à épouser. L'islam, le bouddhisme, l'hindouisme dans le New Age, par exemple, n'est-ce pas? L'hindouisme, il est en plein, l'hindouisme. Et c'est cela que l'on honore et que l'on adore. N'allons pas trop loin. Voyons notre actualité. Il y a à Poitiers un parc de 1200 hectares, qui a pour titre, pour désignation, le Futuroscope. Futuroscope. Hmm? Oui, nous sommes jolis, nous, pour faire, pour essayer de discerner le futur. Le Futuroscope de Poitiers. Il a coûté 90 millions actuels, c'est-à-dire 9 milliards d'anciens francs. Bon, mais ça, c'est peut-être un détail, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais enfin, il est important, n'est-ce pas, pour, même pour cette somme. Et il y a, dans ce parc, un institut appelé Institut international de l'innovation. Et c'est un grand bâtiment et qui a la forme d'une gigantesque fleur de lotus à 8 pétales. Autrefois, on faisait des basiliques ayant une forme de croix, n'est-ce pas ? Mais là, c'est une fleur de lotus à 8 pétales. Et alors, si l'on s'étonne de cette forme, eh bien, il y aura là tout ce qu'il faut, des dépliants pour nous renseigner. Et ils nous diront que cette fleur de lotus représente l'imagination créatrice et la naissance de l'idée dans les civilisations orientales. On aime ça maintenant, on aime aller là, dans les civilisations orientales. Et puis, c'est pas tout, cette fleur de lotus veut être aussi le symbole de l'harmonie cosmique. De l'harmonie cosmique. Voyez où nous sommes, bien loin du christianisme. Et c'est pas encore tout. La fleur de lotus entend rendre hommage au bouddhisme, car elle figure, nous dit-on, la nature de Bouddha. Voilà, voilà, en plein Poitiers, en plein milieu de la France. Voilà ce que nous avons vu. Il y a bien d'autres choses. Le christianisme est submergé. Quelqu'un, un commentateur politique qui est dans les conseils du gouvernement, disait récemment, avec vraiment autorité, il disait maintenant, le christianisme, c'est fini, il est parti, hein, pleurons pas dessus, n'est-ce pas, il est parti, c'est fini, il est évincé, il est évincé. Nous, malheureusement, n'est-ce pas, nous constatons, le christianisme est submergé, et l'Église évangélique, nous, n'est-ce pas, dans le christianisme, nous nous voyons à part, comme l'Église, le milieu évangélique, et ce milieu devra se confier au Seigneur, attention, qui a promis de garder ceux qui garderaient la parole de persévérance en lui, de le garder à l'heure de la séduction qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et ça, nous y sommes en plein dans cette séduction. Elle est là, voyez-vous, à Poitiers et ailleurs, n'est-ce pas ? Le New Age, maintenant, envahit la France, il a envahi les États-Unis, envahit l'Allemagne, atteint les milieux dirigeants, les milieux pensants, les milieux politiques, et ce qu'il y a là, eh bien, il y a toutes sortes de choses provenant de l'hindouisme et provenant aussi de l'humanisme athée. Il y a la réincarnation, notamment. La réincarnation est venue remplacer la résurrection. La réincarnation, et vous avez des gens, ce ne sont pas de pauvres égarés, ce sont des gens, s'il vous plaît, d'importance dans la société, qui vont vous dire, moi, j'ai déjà conscience de ce que j'ai fait dans mes vies antérieures. Voilà, le christianisme est submergé. Il n'y a pas d'autre terme, c'est vrai, il faut se faire à cette vérité-là. Adultère que vous êtes, s'écrie Jacques, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous.
Et nous voudrions, avant d'en terminer ce matin avec ce sujet, ce beau sujet, sur lequel on pourrait parler bien plus longuement, puisqu'il m'est arrivé de faire jusqu'à 6 conférences sur ce sujet, et nous pouvons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Notre domicile céleste, qu'est-il ? C'est le corps de la résurrection que nous désirons revêtir. Mais pour cela, il faut que maintenant nous soyons trouvés vêtus et non pas nus. Ah, si nous sommes nus, ça, nous ne pourrons pas revêtir le domicile céleste. Mais vêtus maintenant de quoi ? Vêtus de ce que le prophète Ésaïe déjà appelait la robe de justice. La robe de justice, cette robe qui engloutit tout ce qui est mortel par la vie, c'est la robe de justice et la robe de vie. Il faut que la vie nouvelle submerge tout vestige de mort en nous, que la mort soit submergée par cette justice dont le Seigneur nous revêt comme d'une robe. Dans Ésaïe 61:10, version Darby, figure cette expression, la robe de justice. La fiancée de Christ doit être donc une vierge pure, et elle ne peut pas être vêtue autrement que de la robe de justice. Rappelons-nous la parabole des noces dans Matthieu 22. Je pense que vous avez cela à l'esprit. Matthieu 22, je vais lire simplement au verset 11. Vous savez, il s'agit là de le royaume des cieux qui est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et il y a des invités. Et quand la salle des noces est remplie, alors le roi entra, verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit à ses serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » C'est terrible cette parabole. On aime bien entendre les paroles douces, accueillantes, rassurantes, du Seigneur Jésus ou des apôtres, mais c'est cette parole-là, on l'aime peut-être moins, des paroles comme ça. Mais c'est pourtant le Seigneur Jésus qui a prononcé cela, n'est-ce pas ? Pourtant, Dieu n'a rien a priori contre cet invité qui n'est pas en règle. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Comment est-ce possible ? Et puis alors l'autre, il ne s'est pas donné d'explication, il n'y en a pas. Alors, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Sommes-nous à la fois appelés et élu. Et l'élection, ça se cultive, ça. Ça se garde précieusement dans le cadre de l'alliance, dans le cadre du contrat de mariage. Cela se garde. Jean a eu le privilège, l'apôtre, a eu le privilège de contempler la foule des rachetés qui étaient vêtues de robes blanches. Vous savez, c'est dans Apocalypse 7. Ça représente tous les rachetés. Ils étaient vêtus de robes blanches, blanchies dans le sang de l'agneau. La vie chrétienne sur la terre nous est donnée, nous est consentie, pour nous préparer aux noces à venir. Elles seront célébrées dans le ciel. Est-ce que vous avez pensé à ce jour de noces? Bien. Elles seront célébrées dans le ciel, dans la cité de Dieu, et il faut que cela arrive. Et la naissance de Jésus, qui était annoncée bien des siècles avant, est arrivée, d'autres événements sont arrivés, la croix est arrivée, eh bien, les noces de l'agneau, il faut que cela arrive. Je vous relis simplement ceci, pour ne pas vous faire tourner les pages, c'est dans Apocalypse 19. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » J'ai dit, c'est la parfaite fidélité. Elle est revêtue donc de fin lin. Alors, pour terminer, nous allons voir un peu comment ce jour de noces est évoqué dans les Écritures. Et nous prendrons le psaume 45. Le psaume 45. 45. Je ne vais pas lire en entier, mais vous savez que ce psaume est prophétique. Au début, il y a ceci, c'est un chant d'amour, cantique chant d'amour. Et puis verset 2, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, je dis mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours, vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire, oui ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Hein, c'est Jésus-Christ. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Ah, tiens, le plus beau des fils de l'homme est Dieu. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues, c'est-à-dire sur tes semblables, mettons d'une façon générale, les hommes, ou si nous voulons d'une façon plus particulière, les sacrificateurs. Bon, alors, allons un peu plus loin, et là, nous avons une allégorie. La Bible est libre de nous parler par allégorie. Il ne faut pas essayer de faire correspondre exactement le tableau qui nous est ainsi présenté à la réalité que sera les noces de l'agneau, n'est-ce pas? Mais il suffit pour nous que ces noces soient évoquées et que nous ayons un moyen de les entrevoir par cette allégorie. Et alors, il y a la fille du roi. La fille du roi, parce que la fiancée ici, dans cette évocation d'un mariage, la fiancée est fille de roi aussi. Elle va épouser le grand roi dont nous avons parlé. Hein. Tu es le plus beau des fils de l'homme. ce grand roi. Elle va l'épouser. Alors, nous la voyons comment elle est parée. C'est ça qui nous intéresse, au verset 14. « Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. » Alors, elle porte un vêtement tissu d'or et elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés. La fiancée, l'épouse elle-même, fille de roi, nous la voyons vêtue donc de ce vêtement tissu d'or et d'habits brodés. Les habits brodés, c'est la robe de fin lin. La robe de fin lin, ce sont les œuvres justes. Ça a été travaillé, cela. Ça a été travaillé. En plus, et par-dessus cette robe de fin lin, elle porte un vêtement tissu d'or, comme l'était l'éphod du souverain sacrificateur, qui était, nous dit l'Ancien Testament, non pas tissu d'or, mais brodé d'or, ce qui revient au même, il était brodé d'or, l'éphod. Et vous savez quelle était l'importance de cette partie du vêtement qui ne couvrait pas entièrement la robe, quelle était son importance dans les vêtements du souverain sacrificateur. C'était le signe de la sainteté et de la gloire de Dieu. De la sainteté et de la gloire de Dieu. Et cette sainteté et cette gloire se sont donc portées sur l'épouse qui entre dans le palais du roi. Ce sont, si vous voulez, en quittant l'évocation pour revenir d'une façon plus proche à la réalité, ce sont ceux qui ont été justifiés et qui sont aussi glorifiés, comme dit Romains 8, 29 et suivant. Voici donc l'épouse telle qu'elle est présentée au roi au milieu des réjouissances et de l'allégresse. C'est là qu'il y aura de grandes réjouissances et de l'allégresse. L'épouse. Eh bien, voilà ce qui nous attend. Voilà ce que Dieu a préparé. Et nous comprenons pourquoi il faut que maintenant la fiancée de Christ soit une vierge pure, pure, au fond de son cœur. Qu'elle ait un cœur pur, limpide, sans mélange, sans pli. Un cœur pur, un cœur simple, sans mélange, pur aussi en sa marche, en son... une attente de l'époux. Elle est pure dans son attente. Son attente est vraie. Son attente est constante. Son attente n'est pas quelque chose d'allié à d'autres espérances. Non. Elle est pure dans son attente. Et elle est pure, enfin, dans ses œuvres qui glorifient le Seigneur. Voilà ce que signifie cette robe brodé et cet éphod brodé d'or, tissu d'or, sous lesquels elle est présentée à son roi, à son époux. Cela aura lieu dans la cité de Dieu bientôt. Que le Seigneur nous bénisse et nous prépare pour ce merveilleux temps. Amen. Seigneur, Dieu de paix, Dieu d'amour et de bonté, nous te louons et te bénissons, car ton dessein a tout préparé à l'avance, a tout conçu, et nous savons que tout s'accomplira, et que bientôt, cette magnifique, remarquable conclusion se présentera. Ce sera l'accomplissement, la consommation de toutes choses, et nous voulons nous y préparer. Et maintenant, être, nous, la Vierge pure, qui nous est demandé d'être dans le Saint-Livre. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.